7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, être musulman en France. Dans cette France d'après, après les attentats de janvier, il y a d'abord eu le choc, l'effroi, la condamnation, et puis très vite un mot d'ordre prononcé à gauche comme à droite, repris par les médias, pas d'amalgame. Mais les faits sont là. Dans le mois qui a suivi les attentats, 153 actes islamophobes ont pourtant été recensés. Un chiffre en hausse de 70% par rapport à la même période l'année dernière. Il y a deux semaines, les fusillades de Copenhague ont ravivé la crainte du terrorisme en Europe. Des événements toujours suivis par la même injonction faite aux Français de confession musulmane, celle de condamner, voire même de s'excuser pour des actes dont ils ne s'estiment pas responsables. Aujourd'hui, nous donnons donc la parole à des musulmans au pluriel. Car le mot est en effet bien vague. Il concerne entre 4 et 5 millions de personnes selon le ministère de l'Intérieur. Alors comment vivent-ils le regard de la société française confrontée à l'après-Charlie? Quelle vision de l'avenir pour eux et pour leurs enfants dans un pays où s'est imposée au fil du temps l'idée d'un problème musulman?
Quand on se dispute souvent entre amis, souvent ils font des réflexions sur la religion. Ils commencent à se moquer, par exemple, je suis plus ton ami, bah de manière, ta religion elle est nulle, je suis plus ton ami, moi je vais pas porter de foulard et toi tu vas le porter et tu seras moche. C'est pas agréable, c'est vrai, mais après on s'y habitue très vite. Depuis l'attentat, en fait, il y en a qui se permettent d'insulter les autres, mais c'est un peu blessant quand on se dit que c'est de notre faute alors qu'on n'a rien fait. Mais c'est suite à ce moment-là, je regrettais vraiment d'être de cette religion parce que c'est comme si c'était une honte en fait. C'est vrai qu'on pleure la première fois, même si on n'a pas du tout l'habitude de pleurer.
Ça t'a fait pleurer ?
Bah oui, un peu. Je suis partie dans les toilettes pour me rafraîchir un peu le visage, mais c'est vraiment choquant. Au début, je voulais porter le foulard, mais moi, je me suis dit, si je le mets un jour, bah, ça sera plus après, parce que moi, je préfère me concentrer sur les études d'architecte. Je vais mettre toutes les chances de mon côté, me concentrer d'abord sur mes études et après me concentrer sur ma religion, par exemple, mettre après mes études si j'ai mon travail.
Charlie Dupiot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré cette petite fille de 9 ans aux journées portes ouvertes d'une école musulmane privée à Mantes-la-Jolie.
Nous voilà dans la grande banlieue parisienne, à 50 km au nord-ouest de la capitale, un mois tout juste après l'attaque de Charlie Hebdo. Dans la grisaille, au cœur du quartier du Val-Fouré, où vivent 36% d'étrangers et selon le maire UMP de la ville, 80% de musulmans, l'école privée Eva de Vitré est une école républicaine, comme le disent ses fondateurs. En arrivant, on aperçoit d'ailleurs le drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte au-dessus du bâtiment principal. Cette école primaire, bilingue français-arabe, a ouvert il y a 3 ans. Elle accueille aujourd'hui une centaine d'élèves et ouvre à la rentrée prochaine une classe de 6e. Chaque matin, on y propose une demi-heure d'éveil spirituel non obligatoire. La formule plaît, elle attire beaucoup de familles. Aujourd'hui, près de 150 parents suivent la visite proposée à l'occasion de cette journée portes ouvertes. Ils sont très attentifs, veulent faire bonne impression. Certains sont venus avec leurs enfants, comme cette mère voilée, accompagnée par sa fille de 9 ans que nous venons d'entendre. Elle a de longs cheveux noirs et ne tient pas en place. En attendant d'être inscrite dans cet établissement musulman, elle fréquente une école privée catholique.
C'est beaucoup plus agréable quand on est dans une école de sa religion. Il n'y a pas de moquerie, on ne se sent pas différent du tout et ça fait du bien.
Et donc là, aujourd'hui, vous êtes dans cette école musulmane pour éventuellement l'inscrire l'année prochaine.
Oui, tout à fait. Voilà, il y a plein de fantasmes par rapport surtout à la religion musulmane, donc à l'école publique, il y a le côté laïque, il ne faut pas trop parler de la religion, bon, alors que le fait d'aller en école confessionnelle, on ne renie pas cette spécificité, ça fait partie de la personne.
Donc ici, nous sommes dans la classe de CE2.
Dans chaque classe, vous allez remarquer qu'il y a un coin bibliothèque et un coin éveil spirituel.
Comme vous le savez, il y a énormément de demandes. Pour certaines classes, nous avons eu jusqu'à 7 demandes par place offerte.
Combien coûte une année de scolarité ?
Une année de scolarité coûte aux alentours de 3 200 €. Nous demandons aux parents 2 200 € parce que nous ne voulons pas que l'argent soit un critère de sélection.
Vous avez deux enfants, un garçon et une plus petite fille. Ils ont quel âge ?
Mon fils, il va avoir 11 ans dans une semaine. Et la petite, elle a 6 ans. Elle est au CP. Je préfère les mettre dans un collège musulman. Je sais que ça va que m'aider.
Pourquoi ?
Ils vont plus s'en sortir quand ils seront dans le privé que le public. Et les collèges, ils sont pas terribles. Ben, les enfants, ce que je vois en bas de chez moi, ils fument, dehors, casser des voitures, sans diplôme, sans rien. Ça me fait peur de voir mes enfants finir comme ça, quoi. Moi, mes parents, ils sont venus du pays.
Quel pays ?
Du Sénégal. Je veux qu'ils galèrent pas. Et s'ils apprennent la religion, ils vont aller loin dans leurs études.
Je me présente, donc je m'appelle Majid. Je suis cadre financier dans une grande banque française. Je souhaiterais inscrire ma fille, en fait, dans l'établissement en 6e. La première motivation, donc c'est pour le niveau. Après, le fait que nous, on soit de culture musulmane, le fait qu'ils soient dans un cadre avec des références, avec surtout un aspect qui leur permet en fait de connaître un peu la culture musulmane dans un esprit républicain, donc c'est quelque chose qui nous pousse en fait à inscrire notre enfant dans cet établissement. De fait, il y a une certaine sélection aussi par le coup. On espère que le jour où l'établissement passera sous contrat, ça permettra de démocratiser, de permettre aussi à d'autres familles de pouvoir inscrire leurs enfants dans cet établissement.
Parce qu'effectivement, un établissement sous contrat avec l'État est en partie subventionné par l'État.
Quand l'établissement passera sous contrat, tout ce qui est partie enseignant, je pense que c'est pris en compte par l'éducation nationale.
Est-ce que vous n'avez pas peur d'inscrire votre enfant dans un entre-soi ?
Ça peut être un risque. C'est la première école ici à Mantes-la-Jolie. Donc c'est vrai qu'au début, je pense que c'est la plupart des enfants, la majorité, seront des enfants de culture musulmane. Je pense qu'après, en fait, si les parents d'autres confessions voient que les résultats sont là, je pense qu'ils n'hésiteront pas à inscrire leurs enfants. Que ce soit un établissement musulman ou autre, si le résultat à la fin n'est pas là, vous désinscrivez vos enfants.
Charlie Dupiot, d'ici 2 ans, cette école devrait donc passer sous contrat d'association avec l'État, c'est-à-dire l'État devrait prendre entièrement en charge les salaires des enseignants, mais en contrepartie, l'école doit bien sûr respecter les programmes fixés par l'éducation nationale.
Oui, aujourd'hui, il existerait une petite trentaine d'établissements musulmans privés dans toute la France. Pour le moment, seuls 2 sous son contrat d'association avec l'État. En comparaison, on compte un peu moins de 300 écoles de confession juive pour une population plus restreinte et 9000 écoles catholiques. Ces écoles catholiques deviennent d'ailleurs souvent un refuge pour des enfants musulmans. Leurs parents n'ont plus confiance dans l'école publique, trop laïcarde à leurs yeux ou décevante de par ses résultats scolaires. Comme les autres, ces parents de classe moyenne musulmane veulent que leurs enfants réussissent.
Ouais, c'est ce que nous révèle aussi l'essor de ces écoles privées qui coûtent entre 2000 et 3000 euros par an. C'est aussi l'existence d'une classe moyenne, d'une bourgeoisie française de confession musulmane qui a donc ses attentes, ses revendications, des commerces halal dans le quartier par exemple ou une mosquée où prier.
J'ai rencontré un cadre dirigeant d'entreprise de confession musulmane. Il a souhaité garder l'anonymat. Ses parents sont originaires d'Algérie. Lui est né en France. Il m'accueille costume gris sur une chemise verte sur son lieu de travail. Une PME de 200 salariés au 28e étage. De son bureau, il a une vue sur tout Paris.
C'est mon bureau. Donc, je suis directeur général adjoint d'un éditeur de logiciels depuis bientôt 15 ans. Alors musulman, semi-pratiquant, jusqu'à présent je fais pas la prière. Maintenant voilà, sur le ramadan, sur l'alcool, sur les principes alimentaires, voilà, je suis ça. C'est une entreprise qui est assez diversifiée dans les cultures, tout se passe très très bien. Si on prend le ramadan où à un moment donné on va plus aller déjeuner avec ses collègues, on va plus se retrouver là autour de la machine à café, ou quand on va proposer de boire, là on va pas boire. Sur les interdits alimentaires, personne vous oblige à manger ou à du cochon ou à boire. En fait, on est complètement en opposition à ce que l'actualité nous amène aujourd'hui. Voilà.
Vous, comment vous avez vécu cette période-là ?
Mal, comme toutes les attaques qui se perpétuent depuis 95, où à chaque fois que, au nom de l'islam, on utilise la violence et de la violence massive, forcément, on se sent pas bien, on se sent mal. Même si vous ne vous associez pas à ça, il n'en reste pas moins qu'il y ait des gens qui ont dit qu'ils l'ont fait au nom de l'islam. Donc forcément, ça pose question. Moi, je suis forcément mal à l'aise vis-à-vis de ça. Maintenant, j'ai pas de solution toute faite. J'ai pas changé mon quotidien. J'ai un fils qui est actuellement au Québec dans le cadre de ses études. Et donc, forcément, on a évoqué le sujet puisqu'il est parti 2 jours avant les événements tragiques là, de ces attentats. forcément, vous avez des propos de prudence, d'attention. Déjà là, c'est comme s'il allait avoir un problème, alors que on n'en sait rien. Si son environnement est un environnement où il y a des gens qui vont prendre des positions véhémentes et que commencent à se créer des manifestations anti-islam, etc., forcément, il faut qu'il fasse attention.
Depuis qu'il y a eu les événements, comment vous vivez le regard que certains en France portent sur les musulmans ? Et notamment peut-être le discours aussi qui peut être entretenu par certains hommes politiques ou femmes politiques.
Ça me touche fortement, mais j'ai une situation aujourd'hui et je ne suis pas dans une situation de faiblesse ou de détresse qui font que ces éléments-là en plus me mettent à l'écart. Demain, si quelqu'un se targuerait de mon origine ou de ma culture ou de ma religion pour m'envoyer un rejet quelconque, bon voilà, j'ai des éléments de réponse, un certain équilibre. Les gens qui n'ont pas ces équilibres-là, forcément, au bout d'un moment, à force d'en ramasser, sur la tête, ils basculent. En tout cas, ils peuvent basculer. À leur niveau, ils pensent que c'est le seul élément de réponse qu'ils ont. La violence verbale, la violence de manifestation qui dégénère. Vis-à-vis de cette bêtise-là, de gens qui vous rejettent, je ne vais pas m'énerver.
Ce cadre dirigeant, Charlie Dupiot, reste calme, mais d'autres élèvent la voix en France.
C'est le cas d'Abdel Ramen Azouzi, médecin urologue, chef de service au CHU d'Angers. Le mois dernier, il a décidé de quitter son poste de conseiller municipal, un poste qu'il occupait depuis 2008 dans cette ville en bord de Loire, une façon de protester contre le traitement réservé à l'islam par les dirigeants politiques.
Ce ne sont pas des Syriens ou des Afghans qui sont venus sur le territoire français pour tuer des Français. Ce sont des jeunes Français qui ont tué de jeunes Français. Et je suis désolé, les musulmans ne sont pas responsables de Kouachi et Koulibaly. Surtout qu'ils ne nous demandent pas de compte. Ce sont des produits français, ces jeunes-là. Donc c'est à ceux qui les ont construits à travers l'école de la République, à travers la société française en général, de se poser la question, mais quelle est notre responsabilité ? Comment se fait-il que nous soyons arrivés à un tel échec ? Le déversoir, le calcul politique de certains hommes et de certaines femmes qui consiste à dire finalement l'islamophobie, ça paye électoralement. Cette façon de courir derrière le Front National qui a fait de l'islamophobie son fonds de commerce fait qu'on a l'impression d'avoir une course à l'échalote qui cassera le plus de musulmans possible pour avoir le maximum de voix. Ça ne règle pas la situation, ça ne fait que l'empirer. Quand on entend le Premier ministre actuel,
Manuel Valls,
qui nous dit qu'on est en guerre, qui parle d'islamo-fasciste, l'islamophobie, elle est le fait d'un discours politique nauséabond, elle est le fait des médias. Ce Zemmour qui passe son temps dans les médias à injecter du poison dans les veines des Français, ce Finkielkraut qui nous explique que la France avant c'était mieux.
Éric Zemmour et Alain Finkielkraut qui sont des intellectuels français.
Ce sont des gens qui veulent fracasser la France, qui veulent en retirer une partie qui est la partie musulmane. Ce jeu dangereux auquel jouent ces intellectuels entre guillemets, chacun a sa part de responsabilité. On ne peut pas passer son temps à considérer les citoyens français de confession musulmane comme des serpillères ou comme un marchepied pour arriver à je ne sais quel objectif. C'est ça qui m'inquiète et c'est pour ça que j'ai rompu. Je dis, moi je ne cautionne plus ça, voyez-vous. Je ne peux pas accepter ça. On me dit, oui, mais vous êtes un exemple de ce que la République a pu faire. Il a, entre guillemets, réussi. Pourquoi donc se retourne-t-il contre le pays qui a fait de lui ce qu'il est ? Je suis né dans le 93 de parents algériens, en Seine-Saint-Denis. Mon père était tourneur, ma mère était analphabète, on parlait arabe à la maison. Aujourd'hui, j'utilise mon statut social, je le fais sciemment, parce que je sais qu'on donnera peut-être plus d'espace ou de crédit à ma parole, parce que j'ai fait le parcours qui montre que c'est possible. Ça fait 50 ans que cette question se pose. Et ça fait 50 ans qu'on est dans l'échec.
Abdel Ramen Azouzi, ce chef de service de confession musulmane, Charlie Dupiot, pointe aussi du doigt des années de discours stigmatisants, selon lui, aboutissant à un climat de suspicion. La présence musulmane, pourtant, remonte à près d'un siècle en France.
Oui, et c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que la France recrute pour son industrie dans ses colonies, l'Algérie et le Maroc dans un premier temps. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Ces immigrés sont rejoints par leurs épouses à faveur de regroupements familiaux qui s'accentuent à partir des années 70. Suisse. Leurs enfants naissent en France et cette génération cherche à trouver sa place entre deux cultures alors que commence à naître l'idée d'un problème posé par l'islam. Mmh. C'est ce qu'explique Abdelali Ajat, sociologue. Il a coécrit avec Marwan Mohamed l'ouvrage « Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman » aux éditions La Découverte.
Dans la société française, il existe une présence musulmane qui est liée à une histoire, qui est l'histoire de l'immigration, l'immigration ouvrière. Et on parle de la construction de problèmes musulmans, c'est-à-dire qu'il y a des faits. Et ces faits sont construits en problème. Un des premiers moments où ce problème musulman s'est construit, c'était au tout début des années 1980, pendant des grèves ouvrières qui concernaient essentiellement des travailleurs immigrés, beaucoup marocains, dans la région parisienne, dans des usines automobiles, et la plupart d'entre eux donc se mobilisaient contre les licenciements, contre les conditions de travail dégradantes, et l'organisation de ces grèves contenait, mais de manière vraiment marginale, des revendications qui étaient liées à l'islam. Le fait d'avoir une salle de prière dans une usine, donc c'était quelque chose qui était assez courant à l'époque, puisque donc, une des premières mosquées ou lieux de culte dans une usine, c'était en 1976. À Renault-Billancourt.
Dans une usine automobile également.
C'était soutenu par les syndicats. Et donc, ça faisait partie des revendications dans les années 1980. Plusieurs acteurs, à l'époque, ont réinterprété, en fait, ces grèves, non pas en termes de conflits de classe sociale, donc vous avez des ouvriers d'un côté, les patrons de l'autre, voilà, le schéma classique, entre guillemets, mais un conflit qui serait un conflit religieux. Donc, à l'époque, le patronat avait produit des rapports, et puis aussi le gouvernement de l'époque ont qualifié ces grèves de grèves chiites. Donc il y a une connexion qui a été faite entre la révolution iranienne de 1979 et puis les grèves du début des années 80. D'après les enquêtes sociologiques, il n'y avait pas d'organisation chiite qui était présente dans les grèves. Et c'était une manière, du coup, de disqualifier les ouvriers, de leur dire « Ah ben voilà, vous êtes intégriste, donc la légitimité de votre combat est très faible, voire quasiment nulle. » Les médias dominants, généralement, on repris l'analyse gouvernementale qui était une analyse patronale. C'est un peu le moment inaugural, quoi, de la construction du problème musulman.
En quoi la question de l'islamophobie est liée à la question économique ?
Dans la situation de la France actuelle, l'islamophobie, c'est une forme de racisme de classe. La très grande majorité des présumés musulmans font partie des classes populaires. Ce sont des quartiers populaires, ce sont des pauvres, ce sont des ouvriers, ce sont des gens qui ont des travaux précaires. Dans un contexte de crise économique, de chômage massif, et dans la mesure où on leur assigne systématiquement une identité religieuse étrangère, on les considère comme des étrangers. Et que leur présence en France, elle est uniquement liée à leur travail. Malgré le fait que ces présumés musulmans ont la nationalité française, ils sont immigrés à vie. Et cet enjeu-là de la légitimité de la présence, c'est un enjeu qui est systématiquement présent dans les débats sur l'islam dans les années 80, 90, encore aujourd'hui. Quand on compare en fait la situation française avec la situation états-unienne, par exemple, on n'a pas les mêmes modalités d'islamophobie. Aux États-Unis, les musulmans, présumés ou revendiqués, font partie des classes supérieures. Vous avez très peu d'ouvriers présumés musulmans qui sont venus massivement aux États-Unis. C'est surtout des professions type voilà, médecin, avocat, classe moyenne, comptable, etc. Vous avez, pour ceux qui sont immigrés, voilà, syriens, libanais, différents pays arabes. Et puis, il y a une composante ensuite non immigrée, c'est-à-dire les Noirs aux États-Unis, convertis à l'islam, et qui, de fait, sauf pour cette composante noire, où là, c'est vraiment des classes populaires, ghettos, etc., c'est plutôt des classes supérieures. Et là, vous voyez que le discours islamophobe n'a pas la même prise dans la société aux États-Unis.
Alors même que ce sont les États-Unis qui ont été visés par le 11 septembre.
C'est ça. Le Parti républicain,
parti à droite,
contient dans ses structures internes des musulmans. Aux États-Unis, les mouvements islamophobes ne sont pas dans les partis politiques. C'est surtout le mouvement Tea Party. Une droite très conservatrice, avec une composante évangélique. Donc le discours islamophobe, c'est un discours qui est surtout lié aux guerres impériales des États-Unis. Donc par rapport à l'Afghanistan, pour justifier finalement les guerres. Il y a des effets de censure du discours islamophobe qui sont plus puissants, notamment parce que les musulmans organisés font partie des classes supérieures. Alors qu'en France, les musulmans ne sont pas organisés ou faiblement organisés. Et ils font majoritairement partie des classes populaires. Cette question économique, elle est centrale.
suite du reportage « Être musulman en France ». Après le flash, nous partirons à Villefranche-sur-Saône, une ville paisible jusqu'en janvier dernier. Restez avec nous.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Suite de votre reportage, Charlie Dupiau, chez 7 milliards de voisins, être musulman en France aujourd'hui, dans cette France de la peur des attentats, rappelons-le, commis par des personnes nées en France, ayant toujours vécu sur le territoire et qui ont laissé place à une défiance accrue à l'égard des musulmans. Partagés entre la crainte de l'amalgame et le refus de se désolidariser, ces Français musulmans, qui représentent, selon le ministère de l'Intérieur, entre 4 et 5 millions de personnes, refusent d'être des victimes collatérales, pratiquants, semi-pratiquants, croyants ou seulement de culture musulmane. En tout cas, tous concilient comme ils le peuvent leur religion, leur travail, leur place dans la société. Un équilibre parfois fragile. Dans le mois qui a suivi les attentats, 153 actes islamophobes ont visé des personnes présumées musulmanes ou des lieux de culte, comme à Villefranche-sur-Saône, où le snack attenant à la mosquée a été la cible d'un engin explosif qui n'a pas fait de victimes, heureusement, le lendemain de l'attentat à Charlie Hebdo. Vous êtes rendu dans cette commune un mois après, Charlie Dupiau.
C'est une petite ville de 35 000 habitants, à une quarantaine de kilomètres de Lyon. On y arrive par une gare de campagne. Depuis le parvis de la gare, on aperçoit un kebab halal où se pressent à l'heure du déjeuner musulmans, mais aussi non-musulmans. Méziane Lounis vient me chercher à la gare. C'est l'un des membres du comité qui gère la mosquée de la ville. C'est à 10 minutes en voiture. Et là, je suis étonnée. La mosquée n'a pas du tout l'allure qu'on lui prêterait. Elle est en fait à l'intérieur d'un ancien bâtiment industriel. Rien ne la distingue de loin.
Donc c'est ici, au 249 de cette rue, où s'est déroulé le 8 janvier dernier un attentat. Moi j'appelle ça un attentat. Voilà, donc apparemment un objet explosif a été déposé derrière ce petit muret et tout a été soufflé, la vitrine, la façade. C'est un petit snack, un petit restaurant rapide. Et un snack qui n'a jamais eu de soucis. Jamais, jamais, jamais. Je crois peut-être une dizaine d'années qu'il est là. Ce qui s'est passé ici au snack, j'en reste persuadé, c'était destiné à la mosquée. J'habite juste en face, vous voyez, il n'y a même pas 50 mètres. J'habite la petite maison qui est là. La déflagration, elle m'a réveillé même carrément, 5h40 du matin. Moi j'ai grandi ici, ce sont nos anciens qui ont acheté ce bâtiment fin des années 70. À Villefranche, pour moi, ça n'existait pas auparavant, ça n'aurait jamais dû exister. Donc quand j'ai su après que c'était ici, moi j'étais curé. Mercredi, c'était Charlie Hebdo, malheureusement. Et ben le jeudi, c'était nous. Jusqu'à maintenant, il n'y en a que pour Charlie Hebdo. Mais par contre, nous, on est quasi passé aux oubliettes. Comme vous pouvez le constater, hein, il y a quoi devant le snack et devant la mosquée? Il n'y a que quelques barrières. Il n'y a pas de cordon de police, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Du jour au lendemain, ça peut recommencer.
Je m'appelle Nordine. Je suis gérant du snack L'Impérial qui a été touché... par une explosion.
Et vous vous êtes senti en danger à ce moment-là, vous ?
C'est plus mon fils, par exemple le plus grand, qui lui a été inquiet. Je veux dire, le premier soir, il a fait des cauchemars et il est venu, il m'a dit, je ne veux pas dormir tout seul. Et voilà, il pleurait. Je disais, pourquoi ? Il me disait, mais papa, ton snack, il a explosé. Pourquoi il a explosé ?
Et vous avez répondu quoi ?
Que c'était un accident et voilà. Un enfant de 7 ans, qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Je voudrais pas qu'il grandisse en se disant ben moi je suis musulman et tous ceux qui sont pas musulmans ben c'est mes ennemis et c'est pas ce que mon père m'a inculqué et que ce soit à l'école, au foot, il est avec des gens de diverses origines, musulmans ou non musulmans, et je veux qu'ils vivent tranquillement, voilà, comme ça quoi.
Donc là pour l'instant le snack est un petit peu en attente de travaux, mais quand il rouvrira, est-ce que vous ne craignez pas le risque en fait d'une nouvelle explosion?
Ouais bien sûr, ouais. Ne serait-ce qu'au niveau de la clientèle, est-ce qu'on va pas être touché? Parce qu'on avait une grande clientèle de gens non musulmans aussi, 30-40%. Le fait qu'on ait été attaqué, on va pas répercuter ça sur les gens non musulmans, parce que peut-être qu'ils vont pas avoir cette crainte de se dire, mais moi je suis pas musulman, comment je vais être accueilli? Apparemment il y aura un avant et un après, j'attends de voir ce que sera le après quoi.
Après Charlie Hebdo et après l'attaque de ce snack, les musulmans de Villefranche se sont sentis ciblés, voire menacés. Mais certains ont accepté tout de même de vous parler, Charlie Dupiau.
Oui, alors de manière générale, pour cette émission, j'ai eu du mal à recueillir des témoignages. On me disait « je me méfie des médias, j'ai peur que l'on modifie le sens de mes propos ». J'ai aussi entendu « je ne veux pas contribuer aux amalgames qui pèsent déjà sur la communauté musulmane ». Voilà le type de réponse que j'ai souvent reçue en région parisienne et ailleurs. Alors qu'à Villefranche-sur-Saône, j'ai été accueillie sans problème avec mon micro. Peut-être parce qu'ici, la nouvelle d'une attaque islamophobe a pris de court les musulmans. Aujourd'hui, ils analysent la situation avec un certain recul, mais une chose est sûre, cet événement a laissé sa trace avec des questions qui ne s'étaient jamais posées ici, comme le raconte cet autre fidèle de la mosquée, barbe grisonnante, jean et pull en grosse laine.
Je m'appelle Monsieur Chik Mohamed, je suis éducateur technique, donc pour les enfants un peu malades, dans les troubles du comportement aussi. Et je suis musulman à part entière, c'est-à-dire pratiquant aussi. Il y a des regards, bien sûr, des regards un peu bizarres, parce que bon, c'est vrai que moi j'affiche bien ma religion, vu ma barbe.
Vous avez une barbe imposante.
Et encore, je porte pas la tenue complète, on va dire. Flash un petit peu, ouais, par rapport à ce qui s'est passé et tout ça.
Vous avez senti que les regards ont changé sur vous ?
Bien sûr qu'on le sent. C'est palpable. Les petits bonjours, qui étaient avant faciles à avoir et que maintenant c'est un peu plus difficile pour certaines personnes. Hein. Ou pas de bonjour du tout. C'est-à-dire qu'on passe, on dit bonjour, il n'y a pas de réponse. Voilà. Voilà. Villefranche reste une petite ville, mais avec son agglomération, ça fait quand même plus de 50 000. Il y a du monde quand même qui gravite autour de Villefranche. Et il y a des gens aussi qu'on ne connaît pas. Et ces gens-là, peut-être, n'ont rien dans le cerveau. C'est surtout certaines personnes qui l'ont ressenti et qui l'ont entendu même pendant la manifestation.
Pendant la grande mobilisation qui a suivi les attentats.
Pas sur Paris, mais sur Villefranche, on reprochait à certaines personnes d'être là. Quoi. Les femmes voilées et des gens à barbe. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là ?
Ça, on vous l'a raconté ?
Oui, on me l'a raconté, des gens qui étaient dans la manifestation, qui l'ont entendu, mais qui ont laissé passer. Du fait des attentats, on a ressenti une certaine haine envers les musulmans. Pourquoi ? Parce que en allumant notre poste de TV, c'est tout le temps les intégristes, les radicaux, les ci et ça. Donc l'islam est vraiment touché. Je pense qu'il y en a qui se sont permis certaines libertés en disant, voilà, c'est les musulmans qui ont créé ces problèmes-là dans notre pays, qui se sont un peu libérés.
Ça, avant, c'était moins le cas.
Ouais, ça y était quand même, parce qu'avant, c'est le Beaujolais. Si, ça y était un peu avant.
Dans le Beaujolais, dans la région où on est en ce moment.
C'est beaucoup reculé même, et puis ils sont vraiment entre gens du Beaujolais, quoi. Et même des gens qui viennent, et j'avais un ami qui était lyonnais, et pas de culture musulmane, hein, et ben même lui était un peu mis à l'écart. Alors imaginez-vous, un barbu. Bon, on en rigole, mais bon, faut rigoler de toutes ces bêtises.
Bezaïr Karim, imam dans cette mosquée depuis, on va dire, les 5 grosses années. Il faut savoir que notre mosquée, dans le passé, a eu des petites attaques, plutôt des tags, détérioration des portes, donc on a dû changer le portail.
Qu'est-ce qui était écrit sur ces tags ?
C'était plutôt des signes. C'est des signes appartenant, je pense, à des groupes un peu anti-islam. C'était pas quelque chose de violent comme l'attaque du snack. Et moi, la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler les gens au calme. Donc on a décidé de faire une petite parenthèse dessus pendant un prêche, le prêche qui a suivi d'ailleurs. On a expliqué les règles fondamentales de la religion. Ne pas réagir à la violence par la violence. La communauté de Villefranche-sur-Saône, on n'est pas des violents. Les musulmans de Villefranche, ils sont très bien intégrés. On a des fidèles qui ont des postes très importants dans plusieurs entreprises. On a des fidèles qui travaillent à la mairie, qui sont fonctionnaires. On a des jeunes qui sont investis. En fait, on n'a pas de gros problèmes avec les gens. On pratique notre religion, on vit notre religion au quotidien.
Est-ce que vous avez eu le sentiment que certains fidèles ont pu avoir peur de venir à la mosquée ?
Oui, carrément. J'ai beaucoup de personnes qui me disent maintenant, on a peur. Le regard des gens, les attaques personnelles, des petites réflexions. Vous avez vu, on est au centre-ville, donc il y a beaucoup de passages avec les voitures. Des personnes qui accélèrent devant des musulmans qui traversent, qui ne laissent plus passer certaines personnes. Ça fait peur un peu. Je pense que tous les musulmans de France ont peur aujourd'hui. Bon, il n'y a pas eu d'autres attaques. On n'a pas reçu de lettres, de menaces ou de choses comme ça. Donc, il faudrait que ça dure. Et des cons, il y en a partout. Ça, c'est sûr.
Charlie Dupiot, selon certaines associations, la concentration d'actes islamophobes au mois de janvier reflète une islamophobie latente qui s'est libérée après les attentats.
Oui, c'est notamment ce que dit le collectif contre l'islamophobie en France. Il recense tous les actes islamophobes, à savoir les attaques contre des institutions comme à Villefranche-sur-Saône, les agressions physiques ou les agressions verbales, ou encore les actes de discrimination. Selon leurs chiffres, l'islamophobie a encore progressé en 2014, avec au total 764 actes enregistrés, plus 10% par rapport à l'année précédente. Et dans 8 cas sur 10, les victimes sont des femmes, surtout des femmes voilées. Dans son dernier rapport, le collectif évoque un lien de causalité entre les événements nationaux et internationaux et le passage à l'acte. Parmi les moments clés figure l'année 95, où Paris connaît un épisode inédit de violence, 8 attentats à la bombe, attribués au GIA algérien, 8 morts, et le début d'une suspicion sur l'islam, alimentée bien sûr par le 11 septembre en 2001.
Et plus récemment, il y a eu les attentats de Londres en juillet 2005.
Oui, 56 morts dans le métro londonien. Des attentats perpétrés par des musulmans nés en Grande-Bretagne. Du fait de l'histoire coloniale, les musulmans britanniques sont dans leur grande majorité originaires du sous-continent indien. Olivier Estève est maître de conférence à l'université Lille 3. Il travaille sur ces questions d'islamophobie en Grande-Bretagne. Et pour lui, les attentats de 2005 marquent un tournant.
Un certain nombre de Britanniques se sont mis à utiliser en fait l'expression homegrown terrorist, voulant dire des terroristes en fait qui sont nés et qui ont grandi en Grande-Bretagne. Autrement dit, si dans les années ou les décennies précédentes on pouvait assez largement avoir l'impression que les musulmans étaient en fait des étrangers en Grande-Bretagne, avec tout un discours de ce qu'on appelle dans les sciences sociales la racialisation c'est donner une identité étrangère à des personnes qui souvent ne sont pas étrangères, c'est ce qu'on fait en français quand on parle des Maghrébins par exemple, la grande majorité des Maghrébins sont bien évidemment français, hein. On en est venu donc en 2005 à parler de cette notion de homegrown terrorists, l'idée étant que chez nous sont nés et grandissent des personnes qui deviennent effectivement des terroristes. Donc là ça a vraiment généré une peur panique dans le pays, puisque on s'est rendu compte que l'ennemi qui plus est terroriste pouvait être votre voisin, enfin ce genre de choses quoi. Donc là 2005 a vraiment été une année extrêmement difficile pour les musulmans. Le nombre d'agressions de musulmans a monté en flèche, hein, agressions de toutes sortes. Hein. 2/3 des agressions sont cibles directement des femmes, notamment des femmes qui portent un voile. Et puis, ce qu'il faut retenir également, c'est la manière dont en fait on a stigmatisé comme une cause principale de ces attentats terroristes, ce qu'on appellerait en France le communautarisme des musulmans, et on a dit voilà, le multiculturalisme britannique a enfanté le communautarisme, le fait que les musulmans vivent en vase clos et puis développent des repères qui sont différents des nôtres et donc deviennent des terroristes. C'est simpliste voire faux. La première raison effectivement de ces attentats terroristes, c'est une raison de politique étrangère, et effectivement c'est la guerre désastreuse en Irak. D'ailleurs c'est ce qu'on voit dans la vidéo glaçante du leader des terroristes, le Mohamed Sidik Khan, où il dit clairement puisque mon pays est en guerre contre l'Irak et contre le monde musulman, moi-même je suis un soldat et je suis en guerre, et c'est pour ça que j'ai décidé de tuer des compatriotes quoi.
Il y a eu aussi, c'est ça c'est intéressant, une injonction faite aux musulmans en France après Charlie, de s'excuser, de se désolidariser de ses actes.
Il y a le même type de réflexe en Grande-Bretagne, où quantité de personnes en sont venues à devoir s'expliquer et puis devoir dire qu'ils sont des musulmans modérés. Alors bon, en anglais, on utilise « moderate ». Un collègue américain, John Esposito, raconte bien la manière dont en fait, cet adjectif est très gênant, puisque par définition, il valide le mélange qui peut exister entre religion et politique, puisqu'on ne dirait jamais un chrétien modéré ou un juif modéré. Modéré relève du vocabulaire politique, hein, on va dire de François Bayrou qu'il est modéré, puisqu'il est au milieu de l'échiquier politique normalement. Et que l'on puisse présenter des musulmans comme modérés, ou même que certains musulmans eux-mêmes puissent intérioriser ce vocabulaire et se présenter eux-mêmes comme musulmans modérés, est une belle illustration, une illustration assez édifiante de cette injonction dont vous parliez, quoi. Et effectivement, on a eu affaire à ça en Grande-Bretagne, notamment au moment des attentats de 2005, sans problème.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Être musulman en France, c'est votre enquête reportage, Charlie Dupiot. Alors, on entendait cette comparaison avec la Grande-Bretagne, islam modéré, des termes qui reviennent souvent dans le discours politique et médiatique en France, et que l'on oppose à l'extrémisme, comme si les musulmans n'avaient finalement pas d'autre choix.
Tous ont pourtant un rapport différent à la religion et à la pratique. Pour vous donner quelques chiffres qui viennent d'une enquête de l'IFOP en 2011, 40% des personnes d'origine musulmane se disent croyantes et pratiquantes. Un cas quart d'y aller généralement à la mosquée le vendredi. Et fait intéressant, un tiers des personnes issues d'une famille musulmane dit boire de l'alcool. Une pluralité de pratiques donc que l'on retrouve dans le monde du travail. Vous l'imaginez, chacun concilie islam et vie professionnelle à sa façon. Certains font même le choix d'un métier qui leur permettra de pratiquer leur religion. C'est le cas de ce juriste en libéral.
J'ai un métier qui me permet de vivre ma foi comme j'ai envie. Mais j'ai fait ce choix-là, oui, par rapport à ça. L'islam vous impose 5 prières par jour, le ramadan, etc. Et j'avais envie de vivre ça pleinement.
C'est-à-dire que vous faites les 5 prières à l'heure, par exemple ?
Alors j'essaye. J'essaye à l'heure, mais oui, bien sûr. J'ai commencé à faire la prière, je devais avoir 17 ans, 18 ans, donc fallait que je fasse ce choix de faire du libéral, le choix d'être libre et autonome. Aujourd'hui, on est dans une société qui nous permet de le faire. Parce que le principe de laïcité, c'est avant tout la liberté de conscience. Si aujourd'hui, je suis dans un cadre qui m'oppresse et qui ne permet pas d'exprimer ma foi comme je le voudrais, ben je n'ai qu'à me mettre en libéral, je n'ai qu'à ouvrir mon auto-entreprise, ma société. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amis qui peuvent faire leur prière sur le lieu de travail. Enfin, il y a une ouverture d'esprit, je trouve, quand même, hein, aujourd'hui, là-dessus. La question fondamentale, c'est où on met le curseur de la laïcité. Est-ce que la laïcité, c'est une contrainte ou c'est une liberté ? Les événements qui sont passés doivent nous donner l'opportunité d'avancer sur ces questions-là.
Je m'appelle Swad et j'ai 25 ans.
Je suis aide-soignante.
Pour personnes âgées, en fait. Dans mon travail, en l'occurrence surtout dans le soin à la personne, j'estime que ma religion n'a pas de place. Je me sens pas de porter le voile, parce que pour moi, pratiquer sa religion, c'est pas nécessairement porter le voile.
Vous faites les 5 prières par jour ?
Oui. Comme je vous ai dit, au travail, on pratique pas sa religion, je les rattrape le soir. On ne doit pas faire un choix de métier ou de vocation en fonction de sa religion, dans le sens où on se dit, si je suis juge, j'aurai pas l'occasion de pratiquer ma religion, parce que c'est faux. La religion se pratique à la maison. Mon mari est cadre dans une grande entreprise, pareil, il pratique sa religion à la maison, malgré qu'il ait des horaires énormes, parce que comme dit, il veut pas être stigmatisé. Ça, c'était bien avant, hein, les attentats de Charlie Hebdo, mais il a jamais voulu être stigmatisé en tant que musulman pratiquant. Sa place, il l'a gagnée à la sueur de son front, en ayant fait des études, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'à côté de sa porte de bureau cadre, on mette musulman. Et je le vois mal entre deux réunions aller faire sa prière. C'est pas possible. À l'époque de mes parents, etc., mon père était ouvrier, il a toujours été musulman. Mais il ne faisait pas sa religion au travail. Là, c'est des choses qui sont nouvelles, c'est des débats qui sont nouveaux, je veux dire. Être musulman, c'est une chose. Pratiquer sa religion, c'en est une autre. Et surtout, vouloir l'imposer dans son lieu de travail, c'est encore autre chose. Pourquoi rentrer dans des débats qui vont être stériles et qui vont que mener encore une fois à la stigmatisation des musulmans ? De demander à faire sa prière au travail ou de vouloir choisir des métiers qui font qu'on puisse faire sa prière au travail, ça nous sectarise, parce que finalement on va se retrouver dans des métiers où il y aura à terme que des musulmans, si c'est ça le choix.
Voilà, des points de vue, des pratiques très différentes. Alors, quelle place pour la religion en entreprise ? C'est une question, en tout cas, qui concerne de plus en plus les managers en entreprise, Charlie Dupiau.
Oui, le sujet est encore considéré comme tabou, source de crispation, mais des consultants ont décidé de s'en emparer et de proposer des formations à la diversité religieuse. C'est ce que fait Inès d'Auvergne, elle est responsable diversité à IMS Entreprendre pour la Cité.
On fait des sensibilisations à la non-discrimination et à la diversité de manière générale depuis le début des années 2000. Et entre 2000 et 2004, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de demandes qui remontaient de managers qui disaient « j'ai eu une question sur les convictions religieuses de la part d'un de mes salariés et puis j'ai pas su comment y répondre. Du coup, j'ai demandé à mon N+1 qui m'a dit « je vais demander à mon N+1 ». C'est remonté tout en haut de l'entreprise et puis en haut, on m'a dit « je sais pas, débrouille-toi ». Et c'est pour ça, du coup, qu'on a commencé à travailler sur des outils pour accompagner les directions d'entreprise, justement pour parler de ces sujets-là et ne pas laisser les managers tout seuls. Parce qu'on s'aperçoit que l'essentiel de ces demandes, en fait, concerne la prise de jours de congé liés à des fêtes religieuses, parce qu'effectivement, en France, les jours fériés correspondent à des jours religieux liés aux fêtes catholiques. On a aussi également un certain nombre de demandes qui vont concerner des aménagements horaires temporaires des salariés qui voudraient aménager leurs horaires en période de ramadan pour commencer un peu plus tôt et partir un peu plus tôt, ou raccourcir, par exemple, leur pause déjeuner. Mais c'est aussi lié, alors, je pense au fait que vous avez aujourd'hui des musulmans à tous les niveaux de responsabilité dans l'entreprise et sur tout type de métier qui sont français et qui effectivement ne voient pas pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de demander un plateau repas qui corresponde à leurs préférences et spécificités alimentaires ou de pouvoir aménager leurs horaires comme le collègue d'à côté qui habite loin ou qui a des enfants. Donc il y a effectivement une modification de la population française qui fait que ces demandes, elles finissent par arriver dans les entreprises.
Qu'en est-il des demandes de locaux ou priés ?
dans les entreprises. Alors souvent, on n'est pas sur une demande liée à la mise en place d'un lieu de culte, mais on est plutôt sur des salariés qui peuvent demander à leur entreprise s'ils peuvent se mettre à l'écart ou avoir un endroit un petit peu isolé ou pouvoir se recueillir.
Qu'est-ce que dit la loi sur ces sujets-là ?
Elle dit quelque chose qui est très très souvent méconnu. Elle dit que la laïcité ne s'applique pas à l'entreprise privée. Et que donc du coup, l'entreprise privée ne peut pas exiger que les pratiques religieuses restent à la porte de l'entreprise et les interdire à ce titre-là.
En fait, la laïcité s'applique dans le service public, mais pas dans les entreprises privées.
La limite est franchie à partir du moment où le comportement du salarié porte atteinte à l'hygiène, à la sécurité, à la liberté de conscience des autres salariés ou au bon fonctionnement de l'entreprise. Vous ne pouvez pas porter une cravate, une barbe très longue ou un voile qui dépasserait quand vous travaillez sur une chaîne de production où il y a un risque d'étranglement parce que le vêtement pourrait se coincer. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, pour un manager, c'est de rentrer sur le terrain de l'appréciation personnelle de ce qu'il croit, lui, être bien ou mal, légitime ou pas. Est-ce que telle ou telle religion dit vraiment ceci ou cela ? Ça, c'est un débat qui ne doit pas avoir lieu dans l'entreprise.
À quel stéréotype vous vous heurtez ?
Vous avez effectivement en ce moment une cristallisation des stéréotypes négatifs autour de l'islam. À partir du moment où vous êtes musulman pratiquant, vous auriez plus de mal que les autres à vous intégrer et vous auriez surtout un rapport à la mixité compliqué. Un musulman qui porte une barbe serait forcément un horrible macho qui passerait son temps à oppresser les femmes de son entourage. Une femme voilée serait forcément une femme soumise et opprimée. Aujourd'hui, une salariée qui arrive effectivement avec un foulard dans son équipe du jour au lendemain, ça fait parler. Ça, c'est évident. Hein. Ça va générer tout un tas de questions de la part des collègues. Est-ce qu'elle a le droit ? Est-ce qu'elle n'a pas le droit ? Est-ce que ça contrevient au principe de laïcité, pourquoi est-ce qu'on la laisse faire, et moi ça me dérange, et qu'est-ce que toi t'en penses, et les droits de la femme là-dedans, enfin, c'est important que le manager puisse cadrer avec son équipe en expliquant que oui, elle a le droit de venir travailler en cachant ses cheveux, que c'est parce qu'on est en France, dans un pays laïque où les libertés individuelles sont respectées, qu'elle a le droit de venir travailler avec un voile sur la tête, même si ça les dérange, finalement il va bien falloir s'y faire parce que c'est comme ça, et puis du coup, les choses finissent aussi par se régler d'elles-mêmes.
Il y a donc, cette consultante le disait, Charlie Dupure, de plus en plus de salariés musulmans à des postes de responsabilité dans les entreprises. Ça, c'est une évolution.
Oui, et pourtant pas assez encore aux yeux de certains, comme Taoufik Barboucha. Il est président de l'association Renovo, qui existe depuis 5 ans en Ile-de-France. Son but, créer une élite musulmane, une autre façon de déconstruire les stéréotypes. Et pour cela, il faut viser les grandes écoles.
Dans les grandes écoles françaises, l'exemple, l'école polytechnique, on recense 3, 4, peut-être 5 élèves musulmans de confession musulmane, français de confession musulmane, qui sont nés, qui ont fait toute leur scolarité en France, sur à peu près 1500 étudiants. C'est un étudiant pour 300, vous imaginez ? Alors que les Français de confession musulmane représentent à peu près 10% de la population française. Les jeunes issus de la diversité et de la communauté musulmane, entre autres, habitent majoritairement dans les quartiers populaires et dans leur entourage rencontrent beaucoup de personnes de catégories socio-professionnelles basses, des ouvriers, des employés simples et ainsi de suite. Ils n'ont pas autour d'eux des ingénieurs, des médecins, ainsi de suite. Donc ils n'ont pas la capacité eux-mêmes de se projeter dans ces fonctions-là. Moi-même, je suis issu d'un milieu ouvrier. Être ingénieur, c'était pas une vocation depuis ma putain enfance.
Mais aujourd'hui, vous êtes ingénieur.
Oui, je suis ingénieur financier. On est nous-mêmes issus des quartiers populaires, on est nous-mêmes ingénieurs, médecins, et ainsi de suite. On a pu y arriver à ces postes-là avec difficulté. On veut que ça soit plus facile pour les autres. On a donc mis en place un système compensatoire pour faire en sorte à ce que ces élèves-là puissent par la suite accéder à ces très grands lycées. Le Grand Henri IV, pour entrer dans les plus grandes écoles de France.
L'idée, c'est de les accompagner pour faire en sorte qu'ils intègrent des classes préparatoires qui sont dans les lycées dont vous parlez, très prestigieux, dans le centre de Paris, dans le 5e arrondissement.
Donc nous, on procède depuis 5 ans de manière sélective. On reçoit des dossiers de parents dont les enfants sont en 3e, 2e ou 1e. Et ces élèves-là, après candidature et étude des dossiers, passent des épreuves.
Au départ, vous choisissez des élèves qui vous paraissent être des bons élèves, qui vous paraissent avoir du potentiel.
Tout à fait. Une fois les élèves présélectionnés, nos élèves ont cours tous les dimanches de 10h à 18h et toutes les vacances scolaires. Mais pour ceux qui sont en classe préparatoire, un normalien et un polytechnicien les suivent 3 soirées par semaine. Il faut savoir que le corps professoral de l'association Rénovo sont tous des diplômés ou des étudiants dans les plus grandes écoles de France, Polytechnique, Centrale, HEC, Sciences Po, ESSEC, et ainsi de suite.
Pourquoi est-ce que vous voulez que des musulmans fassent partie de l'élite ?
La question, c'est pourquoi pas ? Il y a un déficit de représentativité des jeunes issus des quartiers populaires. Parmi les hautes sphères de la société française, et je ne parle pas que des sphères médiatiques, mais je parle aussi des sphères économiques et financières. Pour une fois, le musulman ne sera pas celui qui fait les poubelles, vous voyez. Ce sera aussi celui qui soigne. Même si celui qui fait les poubelles n'est pas à dénigrer. Mais c'est le regard qu'on porte sur lui. Et c'est pour aussi cesser ce discours victimaire qui consiste à dire « Je vis dans un quartier, donc j'ai rien, donc je peux pas y arriver ».
Cette association, Charlie Dupiot, Rénovo, aide pour l'instant une trentaine d'élèves, tous musulmans, en banlieue parisienne.
Oui, et pour financer ces cours de soutien, les familles font un don libre à l'association. Les professeurs sont quasiment bénévoles. Parfois, l'association lance des campagnes de financement participatif pour, c'est ce qu'on peut lire sur leur site, encourager la Ouma, la communauté en arabe, à financer la scolarité de jeunes étudiants.
Et puis, il y a aussi, j'aimerais bien qu'on en dise un mot, ce parti politique musulman très médiatisé ces derniers temps, l'Union des démocrates musulmans de France, qui est créé depuis 2012.
Ce parti devait présenter 8 candidats aux élections départementales des 22 et 29 mars en France. Il n'en présentera finalement qu'un seul à Marseille. Alors il souhaite favoriser le halal ou encore la finance islamique, mais aussi dénoncer les amalgames, car pour eux, la réponse à l'islamophobie doit être politique. Bref, en dépit des amalgames et sans tomber dans la crainte, les classes moyennes musulmanes tracent leur chemin en France. Attachés à la citoyenneté tout autant qu'à la religion pour ceux qui sont croyants, ils sont français et musulmans et n'y voient rien d'incompatible.
Merci beaucoup Charlie Dupiot pour ce reportage, à la réalisation Romain Dubrac et bien sûr tous vos commentaires, les voisins sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins et puis également envoyer vos messages privés à 7milliards@RFI.fr. Demain, 7 milliards de voisins, c'est comme chaque mois le rendez-vous des tchatcheuses. 3 femmes journalistes de 3 continents commentent l'actualité de leur choix. Merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même endroit et bien sûr sur RFI.